Il était une fois une émission de Cato Bell, Angélique Tasio. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission. Il était une fois, ce soir nous accueillons la cofondatrice et co-coordinatrice d'Infirmiers de rue, Émilie Messen. Bonsoir Émilie Messen.
Bonsoir.
Alors vous avez dirigé la publication d'un ouvrage qui s'appelle « Sortir de la rue, manuel d'accompagnement de la personne sans abri ». Ce n'est pas une première publication puisque le livre avait déjà vu le jour il y a une petite dizaine d'années, mais vous avez trouvé nécessaire de le republier. Pourquoi ?
Mais en effet, donc, à ce moment, la première fois, il a été écrit par 4-5 collègues. Donc on était tous ensemble et donc on avait chacun une plume un peu différente. Et on voulait trouver un moyen d'uniformiser tout ça et aussi de rendre le manuel plus accessible à davantage de personnes. Et donc il y avait des points qui étaient vraiment spécifiques à infirmiers de rue. Ben, ça, on les a supprimés. Et on a essayé vraiment d'universaliser au maximum les sujets qui sont dans le manuel.
Parce que votre ouvrage ne s'adresse pas uniquement à des assistants sociaux, par exemple, mais il s'adresse à toute personne qui serait en contact avec les personnes sans-abri.
C'est ça, donc à toutes les personnes qui travaillent avec des personnes sans-abri ou des anciens sans-abri, donc des personnes qui sont locataires maintenant en logement. Mais ça peut aussi s'adresser à des personnes qui s'intéressent à la problématique des sans-abri. Donc, par exemple, des gens qui se demandent, tiens, pourquoi est-ce qu'on arrive en rue, ou pourquoi est-ce que les gens boivent, ou pourquoi est-ce qu'ils ont un chien. Enfin, donc, il y a aussi toutes des questions qu'on nous demande souvent, en fait, quand on est invité quelque part. Mais c'est vrai qu'initialement, c'était vraiment pour donner tous nos outils d'accompagnement. Et donc aussi, il y a par exemple un chapitre vraiment plus pour les infirmiers ou le secteur médical, avec les soins de plaie ou les médicaments, etc. Donc ça va peut-être intéresser d'autres profils de profession, mais donc chacun peut s'y retrouver un petit peu et piocher dans un chapitre ou un autre ce qui l'intéresse le plus.
Vous avez déjà eu des retours de ce livre ?
Non, on a eu plutôt des personnes qui nous posaient vraiment plein de questions et qui, on sait que les réponses sont dedans, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait d'évaluation comme ça, pas encore. Bon, c'est encore assez nouveau et on a été fort pris depuis.
Alors, vous avez choisi de l'éditer avec un crowdfunding qui a vraiment bien fonctionné, hein, puisque vous avez récolté 7045 euros au lieu de 5000 euros attendus. Donc ça, c'était une belle confirmation pour vous.
Oui, c'était vraiment super chouette parce que du coup, on s'est vraiment rendu compte que ce partage justement d'expérience de terrain, parce que c'est vraiment de tout ce qui est écrit est vraiment de l'expérience de terrain, intéressait du coup beaucoup de gens. Et donc voilà, c'était très motivant, surtout après le travail que ça nous a pris quand même de capitaliser vraiment toutes ces informations.
Émilie Messen, vous pensez vraiment que la fin du sans-abrisme est possible ?
Oui, c'est même pas qu'on le pense, c'est que vraiment, j'en suis convaincue. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans parce que en fait, les personnes qui vivent en rue nous ont montré qu'il y avait moyen de s'en sortir. Et jusque-là, en fait, on nous a fait croire que si les gens restaient en rue, c'est parce qu'ils le voulaient, enfin, que tout était de la faute des gens qui étaient en rue. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Si on met les moyens à disposition, donc un logement et une équipe d'accompagnement, il faut pas oublier aussi que les personnes qu'on sort de la rue, elles payent leur loyer, etc. Donc, c'est pas gratuit, hein, mais donc elles payent leur loyer. Et donc, si on met un logement à disposition et une équipe d'accompagnement, eh ben, la personne peut s'en sortir. Et donc, ça ne tient qu'à l'État, à la politique belge de mettre en place des choses pour y arriver.
Et en quoi l'hygiène est-il un fil conducteur ?
Alors, l'hygiène est vraiment super importante parce qu'elle va permettre à la personne de reprendre confiance en elle. Donc, quand quelqu'un vit en rue, il a l'impression de dépendre de tout le monde pour manger, pour avoir de l'argent, etc. Tandis que l'hygiène, la personne peut vraiment choisir les étapes qu'elle va franchir. Donc, se laver les mains un jour, se laver le visage un autre jour, etc. Et donc, mais pour pouvoir choisir ça, il faut qu'elle ait envie de prendre soin d'elle. Et pour avoir envie de prendre soin d'elle, ben donc c'est tout notre travail d'accompagnement sur le terrain, donc de valorisation de la personne et en encourageant, en valorisant donc ses ressources et ses talents. Parce qu'elles ont l'impression, quand elles sont en rue, qu'elles ne savent plus rien faire, qu'elles ne sont plus bonnes à rien. Donc c'est vraiment à nous de leur rappeler la force qu'elles ont et l'énergie qu'elles ont. Parce que si elles arrivent à survivre en rue, c'est pas pour rien et chacun aura ses méthodes et ses forces.
Vous êtes infirmière de formation. Comment en êtes-vous arrivée à cofonder cet ASBL infirmier de rue ?
Alors ça, c'est un long parcours. Par contre, je peux quand même juste expliquer qu'en étant en infirmière, les premières choses qu'on apprend, c'est comment laver quelqu'un et comment faire son lit. Et finalement, ben ici, c'est un peu pareil. C'est comment est-ce qu'on va laver la personne et comment est-ce qu'on va la motiver à prendre soin d'elle et à lui redonner envie de prendre soin d'elle. et puis faire son lit, ben voilà, c'est le lien avec le logement, donc je trouve ça quand même
Et pourquoi est-ce que ce soin du corps est tellement important?
Parce qu'en fait, ça va faire du bien à la personne elle-même. Nous, les jours où on n'a pas envie de prendre soin de nous, c'est les jours où on est fatigué, on est malade, on est découragé, on n'a rien de prévu et donc on s'en fout de regarder la télé avec les cheveux gras. Eh ben, c'est un peu la même chose pour quelqu'un qui est en rue, dans le sens, si elle est dans cet état-là, peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle est découragée, peut-être qu'elle est en manque de projet ou peut-être autre chose encore, mais c'est pas pour rien. Il faut redonner envie, quoi, comme quelqu'un qui est malade, qui a pas envie de prendre soin de lui ou d'elle, et là, ben, c'est la même chose. C'est vraiment un diagnostic d'estime de soi pour nous, l'hygiène, enfin, ou le manque d'hygiène, quoi.
Et il y a un côté un peu maternant dans la démarche?
Quand on a fait des recherches sur l'hygiène, pour savoir un petit peu comment en parler, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on peut manquer d'hygiène, tout ça, on a essayé de se documenter là-dessus. Et donc c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait un côté vraiment donner goût à la vie par l'hygiène. C'est très fort, plutôt chez les animaux aussi. Hein, donc, une chatte, par exemple, qui ne lave pas ses petits, ben, en fait, elle les condamne d'une certaine façon. Donc, il y a un lien avec ça. Maintenant, ça peut être maternant comme paternant, je ne sais pas comment on dit. Mais ça, en tout cas, montrer à la personne qu'on est là avec elle et essayer de recréer une bulle de soins.
Une forme de bienveillance.
Oui, c'est vraiment, en tout cas, oui, un accès à soi et ne pas nier les choses. Donc, par exemple, il y a des gens, quand on arrive près d'eux et qu'on se présente comme infirmière, ils vont nous dire « Ah, mais vous inquiétez pas, moi, tout va bien. Allez plutôt voir un tel, il va pas bien, etc. » Et puis, on peut leur dire assez rapidement, mais, enfin, même la première fois, on peut dire « Mais quand je vous vois comme ça, j'ai pas l'impression que vous allez bien. » Et c'est, on le voit simplement par le manque d'hygiène. Et donc, on peut dire les choses et le fait de le dire, au moins, la personne sait qu'on va être aussi dans la vérité avec elle et que c'est pas un manque de respect ni rien. Au contraire, c'est parce qu'on a confiance en elle et on sait qu'elle vaut mieux que ça, en fait.
Revenons-en à votre parcours et à votre découverte de ce monde des personnes sans abri.
Oui, quand j'étais petite, je voulais, depuis toujours, enfin, au moins depuis que j'ai 7 ans, si pas avant, je voulais travailler dans les rues en Afrique. Donc ça, c'était vraiment ce qui me motivait, c'est ce qui m'a motivée tout au long de mon adolescence, tout ça aussi. Et j'ai aussi été fort marquée pendant mon adolescence et après quand j'ai travaillé en Afrique aussi sur le jugement qu'on pouvait faire sur l'apparence. À l'adolescence, ben voilà, on n'a pas les habits qu'il faut et donc on est jugé. Et en Afrique, ben on est blanc et donc du coup on est jugé dans l'autre sens. On nous donne plein de crédits alors qu'il n'y a aucune raison. Et donc il y avait un côté qui me perturbait en le sens de, allez, c'est important de ne pas se fier aux apparences. L'habit ne fait pas le moine, hein, ici justement. Et donc de vraiment voir qu'est-ce que la personne nous dit au travers sa façon d'être ou quoi, et qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas en fait, et qui est important de savoir aussi. Et donc, quand je suis revenue justement de l'étranger, j'ai travaillé donc, comme bénévole d'abord dans une association qui s'appelle La Fontaine, qui est vraiment super, et donc un centre d'hygiène et de soins pour les personnes sans abri. Là, j'ai vraiment adoré le contact. Là, j'ai appris à travailler 4 ans là-bas, comme salariée et infirmière. Et puis, en parallèle, en fait, j'ai travaillé dans des autres associations aussi, donc pour les personnes toxicomanes et les personnes prostituées. Et l'idée était de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et permettre aussi un changement, quoi. Et donc après, avec Sarah, on s'est vraiment dit, mais tiens, comment est-ce qu'on peut aider les personnes à se rendre plus rapidement dans les centres de soins, ou au moins les aider à se rendre compte de leur situation? Et c'est comme ça que l'association, enfin qu'on l'a mise en place. On a fait une étude de terrain, on a été questionné à toutes les associations, enfin ou beaucoup d'associations sociales ou médicales, des hôpitaux, etc., pour voir s'il y avait des besoins. Et c'est comme ça que l'association est née.
Et votre particularité, ou en tout cas une des particularités de votre association, c'est de partir en maraude.
Oui, alors après, il y a des autres personnes qui font des maraudes aussi, des autres associations qui font aussi des maraudes, mais ici, il y a vraiment l'idée d'aller directement vers la personne et de directement se présenter comme infirmier ou assistant social, enfin en tout cas en tant qu'association infirmier de rue, et donc de parler très rapidement justement des problématiques d'hygiène et de santé et de voir un peu comment est-ce que la personne va pouvoir se reconstruire. Ce qui est vraiment spécifique, c'est que comme on est une association socio-médicale, eh ben, c'est les situations d'urgence en termes de santé qui vont être prioritaires. Et donc, on va prendre les situations les plus à risque de mortalité et de morbidité. Et donc, du coup, tous ceux dont on s'occupe, on les appelle nos patients, parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas ces problèmes de santé, ben, en fait, ils seraient pris en charge par d'autres associations. Mais donc, oui, il y a vraiment un risque élevé de décès et de maladies multiples, quoi.
La période du confinement a certainement modifié le fonctionnement de nos contemporains. Les gens ont peut-être moins d'argent aussi dans leur poche maintenant, hein, puisqu'il y a une carte bancaire qui s'impose de manière un peu unilatérale. Est-ce que les personnes qui sont sans abri et qui ont besoin justement de ces petites pièces le déplorent?
Alors ça, j'ai pas questionné, enfin je ne sais pas par rapport aux cartes de banque.
Mais il n'y a pas moins de dons, quoi.
Ça, je ne sais pas. J'ai aucune idée là-dessus. Je ne sais pas du tout. Par contre, en fait, la période du Covid nous a surtout montré qu'il y avait moyen de créer du logement très rapidement. Alors maintenant, il y a plein de choses qui ont repris comme avant. Mais moi, ce que je retiendrai vraiment de cette période-là, c'est que en fait, on nous a toujours dit qu'il n'y avait pas moyen de reloger tout le monde, etc. Et puis finalement, là, il a fallu faire des choses. Et ça a été très vite mis en place. Alors, il y en avait encore qui ne rentraient pas dans ces logements, tout ça, c'était compliqué. Et du coup, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient isolés en rue, il n'y avait plus personne en rue. Enfin, c'était vraiment très, très lourd. Mais il y a quand même eu énormément de logements créés. Et donc, quand on parlait de la fin du sans-abrisme, finalement, quand il y a des besoins généraux, enfin, des urgences, c'est possible. Donc, si des politiques, enfin, si la politique belge se mettait ça comme priorité nationale. Il y a des pays qui mettent ça dans des stratégies globales, vraiment entre régions, fédérations, enfin, au niveau fédéral, régional et communal. Ben, s'il y avait un mouvement autour de ça, on pourrait y arriver très vite.
Nous allons bientôt avoir des élections en Belgique. Est-ce que vous aimeriez que ça soit un des points oui. à l'ordre du jour?
Donc, on a sorti un mémorandum la semaine dernière. Et en effet, ça fait partie de nos demandes. Donc, la première demande, c'est vraiment l'accès aux logements sociaux, qui est vraiment 5% des logements sociaux qui sont mis à disposition des personnes sans abri. La deuxième demande, c'est vraiment qu'il y ait un meilleur accompagnement au niveau de la santé mentale. Et la troisième demande, c'est vraiment qu'il y ait une stratégie globale pour la fin du sans-abrisme. Vraiment, c'est des choses que les politiques nous demandent entre associations, de se coordonner alors qu'on n'a pas du tout les mêmes publics ou quoi, et on nous demande de le faire et on y arrive parfois difficilement, mais on essaie d'y arriver le mieux possible. Mais alors on aimerait bien aussi qu'il y ait un essai au minimum de leur côté, quoi.
Pourquoi la rue tient-elle et retient-elle les personnes sans abri, comme le souligne Jean Furtoz dans sa préface?
Je pense que c'est le manque de perspective, de se dire en fait quand la personne est en rue, elle ne croit plus à un changement. Il y a plein de choses qui ont fait qu'elle se retrouve là et elle a l'impression que ça va continuer comme ça. Et si tout le monde autour se dit que c'est normal qu'elle y soit, eh ben, il n'y a rien qui va faire qu'elle aura envie de changer. Et donc ça, c'est une première chose. Si on est convaincu qu'il y a moyen que ça change, eh ben, on va pouvoir lui transmettre une énergie aussi positive, un peu comme un sourire au téléphone. Hein. On ne le voit pas, mais on le sent. Et donc, il y a moyen vraiment de transmettre une conviction ou une énergie. Mais alors aussi, en plus, quand la personne vit en rue depuis longtemps, à un moment donné, les sensations corporelles peuvent vraiment changer, donc le corps ne va plus ressentir les choses, ne va plus ressentir la douleur, l'odeur, les blessures, etc. Et donc c'est comme ça que, par exemple, moi si j'ai froid, je vais avoir des frissons pour me dire de mettre un pull et aller prendre un radiateur. Là, la personne, le corps ne va plus signaler ça, vu que de toute façon elle n'a pas de pull ou de radiateur à côté duquel aller. Et donc, à un moment donné, elle ne sent plus rien. Et c'est comme ça qu'on voit des gens qui marchent avec des plaies énormes ou qui restent avec plein de poux et qu'on se dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent rester dans cet état-là? C'est juste qu'ils ne sentent plus ça. Maintenant, heureusement, il y a moyen de retrouver toutes ces sensations-là. Et donc, chaque fois, il y a différents niveaux et degrés de gravité. Mais quel que soit le niveau ou le degré de gravité, il y a moyen d'en sortir. Et l'accompagnement des associations va être différent en fonction de la situation, quoi.
Dans votre livre « Sortir de la rue, manuel d'accompagnement de la personne sans abri », certains témoignages montrent que des gens qui ont eu un logement parfois retombent dans la rue, hein, que ça ne se fait pas du premier coup.
Oui.
Vous n'êtes jamais découragé.
Non, mais en fait, c'est normal dans le sens où, par exemple, imaginons à un tout autre niveau, quelqu'un qui est en logement et qui doit aller dans une maison de repos. Ben, et qui n'a pas le choix. On lui dit c'est cette maison de repos là et pas une autre. Parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autre, qu'elle sait se payer ou j'en sais rien. Ben, ça va peut-être pas réussir du premier coup, enfin, ça va peut-être être très difficile et à un moment donné, elle voudra peut-être retourner chez elle, etc. Parfois, ce sera possible, parfois pas. Enfin, je veux dire, et donc, c'est quand même important d'avoir un choix entre deux, trois endroits. Et là, en plus, la différence, on parlait juste d'un logement à une maison de repos, donc d'un logement à un autre type de logement. Ici, quand c'est un passage de la rue à un logement, ça, le changement est encore plus grand, donc fait encore plus peur aussi. Donc ça peut prendre du temps aussi de se dire, ok, est-ce que je suis prêt ou pas, enfin, et ou alors est-ce que j'ai besoin d'accompagnement pour m'y faire aussi. Et alors le logement peut ne pas toujours correspondre à ce que la personne attendait, ou simplement des habitudes de la vie en rue peuvent ne pas être adaptées à la vie en logement. Par exemple, on a eu une dame comme ça qui, en rue, pour ne pas se faire attaquer, marchait beaucoup et criait tout le temps. Ben, une fois dans son appartement, au début, quand elle marchait la nuit et qu'elle criait la nuit pour ne pas se faire attaquer, ben, elle risquait de se faire avoir par ses voisins. Donc c'était l'inverse, quoi. Et ça, parfois, il faut un ou deux déménagements pour que la personne se rende compte qu'en fait, elle doit changer ce comportement-là. Mais donc ça va dépendre aussi de chacun. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, en tout cas, que la première année, la personne peut déménager une ou deux fois. Mais ça fait partie du processus. Et c'est pas pour ça que tout est perdu. C'est simplement on voit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas été. Est-ce que c'était simplement la situation, le lieu qui ne convenait pas, ou est-ce que c'est un comportement à changer?
Qu'est-ce qui vous donne cette espérance, qui fait que vous poursuivez?
En premier lieu, les réussites de terrain, hein, le fait que les gens s'en sortent, alors que vraiment, au début, on n'y croyait pas. Enfin, quand on a créé l'association, on ne pensait pas à ça. On n'imaginait pas qu'il y avait moyen de les sortir de la rue, et donc vraiment de se dire, purée, ah, lui, il est sorti de la rue, lui aussi, elle aussi, ah, génial. Ben, du coup, ça, c'est la première chose. Parfois, c'est aussi très frustrant, parce qu'il y a eu des gens qui allaient rentrer en logement et pouf, deux semaines avant ou une semaine avant, sont décédés, donc, ou à peine arrivés dans le logement, ils décèdent. Donc, il y a un côté très énervant aussi, mais il y a aussi vraiment beaucoup de réussite là-dedans. Il y a aussi vraiment toute l'énergie de l'équipe aussi de l'ASBL, hein, de l'ASBL infirmier de rue, où il y a vraiment, on se partage les bonnes nouvelles, on partage toutes les réussites, petites ou grandes, pour justement se dire, ben voilà, il y a des choses qui prennent du temps, mais il y a plein d'autres étapes qui se traversent d'ici là, quoi.
Oui, entre vous, vous recourez au photolangage. De quoi s'agit-il ? Oui,
le photolangage, donc ça, c'est un moment, un peu un moment suspendu, comme ça, sur le temps de midi, où chacun, à son tour, on va dire comment on se sent. Et comme ça, on ne revient pas en fin de journée avec des trucs très lourds à porter chez nous. Voilà. Et aussi, si jamais il y a un remplacement à faire, en disant, purée, en fait, ce qui s'est passé ce matin, ce n'était pas anodin du tout. Et il faut un remplacement l'après-midi parce qu'il faut que je... On va pas, il ne faut pas aller sur le terrain si on n'est pas bien dans sa tête. Enfin, je veux dire, il faut faire attention. On est là pour donner une énergie positive et aider la personne dans des situations très lourdes. Donc, il ne faut pas que nous, on lui donne nos problèmes, quoi. Donc, il faut vraiment pouvoir partager ça aussi. Et alors, à ce moment-là, souvent, au moment du photolangage, on voit un peu dans quel état la personne, notre collègue, se trouve. Et du coup, est-ce que ça demandait juste une écoute, une attention à ce moment-là, ou est-ce que ça demande un peu plus? Et du coup, par qui est-ce que ça va être pris en charge? Par la personne, son coach, ou la personne des ressources humaines, ou par l'équipe, parce que ça demande une nouvelle solution face à une situation qui s'est passée. Donc ça dépendra un petit peu. Et voilà, on avisera à ce moment-là, quoi.
Donc, prendre soin des accompagnants, c'est aussi crucial.
Oui, c'est super important. Et même en prenant super soin, ben, on voit que malgré ça, il y a quand même encore des fatigues professionnelles. On a une équipe géniale, génialissime. Les gens sont hyper motivés, s'investissent énormément et vraiment font de leur mieux. Mais du coup, c'est fatigant aussi, quoi. Donc, même en prenant soin et en se partageant et en prenant des temps d'équipe, on a encore des gens qui se fatiguent, mais ça ne va pas être par la mauvaise prise en soi. Je ne sais pas comment... Disons que ça va être vraiment... à cause de cette confrontation sur le terrain qui... Et aussi, qui peut être aussi par exemple, moi, ce qui me met en colère vraiment, c'est de se dire, on voit que les gens s'en sortent, enfin, peuvent s'en sortir sur le terrain, même si c'est parfois très long, et qu'on a les moyens en Belgique de mettre les choses en place, et on ne le fait pas. Et donc, il y a un côté hyper frustrant, quoi, et qui peut être très, très énervant aussi à la longue.
Alors, parmi les bonnes nouvelles, l'infirmier de rue est impliqué dans la méthodologie Housing First. De quoi s'agit-il ?
Donc oui, ça va être vraiment justement l'équipe d'accompagnement en logement. Donc on a une équipe en rue et puis une équipe en logement. Et l'équipe en logement va exercer cette méthode-là de Housing First. Et donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Et on va mettre la personne dans un logement individuel, donc dans lequel vous et moi pourrions aller, un appartement normal, et elle va payer son loyer, etc. Et en fait, on va commencer à la traiter, entre guillemets, à partir de là. Donc elle peut aller dans son logement, même si elle a des dépendances, même à une drogue ou l'autre, des assuétudes, etc., ou des problèmes de santé mentale ou quoi. On ne va pas essayer de traiter ça avant d'aller en logement. C'est vraiment se dire, non, on la met directement en logement, housing first, et vraiment l'accompagnement démarre à partir de là et on va l'aider à recréer un réseau, à réveiller un peu ses rêves et ses projets, etc. quoi.
Alors l'association infirmiers de rue existe depuis plusieurs années. Est-ce que vous voyez une évolution dans le type du public victime de sans-abrisme ?
Oui, oui. Donc bon, alors c'est vrai qu'au niveau quantitatif, il est de plus en plus nombreux et donc ça c'est difficile et grave. Par contre, la gravité des situations va mieux. Disons que on a plus facile, en tout cas en termes de santé physique. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que il y a eu beaucoup de gens qu'on a pu reloger ou qui ont pu être relogés par d'autres associations aussi. Et maintenant, il reste encore beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale lourds ou des personnes avec des problèmes des sans-papiers, etc. Et c'est des problèmes administratifs lourds aussi. Et donc là, il faut trouver des solutions adaptées à chacun. Mais de nouveau, il faut trouver ces solutions. On va les trouver, mais ça prend du temps, quoi.
Mais ce que vous voulez dire, Émilie Messen, c'est que la prévention fonctionne.
Alors, la prévention, je ne sais pas, parce que justement, comme il y a de plus en plus de sans-abri qui arrivent en rue, il y a un problème au niveau de la prévention. Quand on a des logements, on voit que la mise en logement est de plus en plus rapide. Avant, ça nous prenait 2 ans et demi pour remotiver quelqu'un à prendre soin de lui. Maintenant, on sait que si on a un logement, en quelques mois, la personne, même si ça fait 15 ans qu'elle est en rue, peut se remotiver aussi, quoi. Donc, c'est à ce niveau-là où on a vu que les choses pouvaient aller plus vite si on a des logements disponibles. Mais par contre, au niveau de la prévention, là, il y a encore vraiment un souci. Et du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements créés par rapport au nombre de personnes qui arrivent en rue. Et il faut absolument que la création de logements dépasse le nombre d'arrivées en rue.
L'espérance de vie des personnes sans-abri est-elle toujours rabotée de 30 ans ?
Je pense que oui. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres maintenant, mais on est toujours aux alentours de 47, 49, 49 ans, un truc comme ça. Et donc, c'est vraiment dramatique. Et ce qui est vraiment dur, c'est que quand quelqu'un décède en rue ou à l'hôpital ou en logement, on va nous dire « oui, mais bon, il était sans abri ». Et donc, c'est normal. Et alors, parfois, il n'y a même pas du coup de... Et en général, même, il n'y a même pas du coup d'analyse de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que la personne est décédée. Comme s'il y avait vraiment une banalisation de « c'est normal que la personne décède quand elle est sans abri ». Un peu comme parfois, on nous dit que c'est normal que la personne soit sale parce qu'elle est en rue ou c'est normal qu'elle boive parce qu'elle est en rue. Mais non, ce n'est pas normal de se détruire comme ça. Il y a quelque chose, et c'est des messages que la personne nous montre aussi, quoi, et qu'il y a moyen de travailler.
Dans votre ouvrage « Sortir de la rue, manuel d'accompagnement de la personne sans abri », il est écrit « C'est la situation qui est indigne, pas les personnes ».
Exactement. Il y a eu plusieurs fois où on nous a dit « Ah, c'est génial, vous rendrez de la dignité aux gens ». Mais en fait, ils n'ont jamais perdu leur dignité. C'est la situation qui a toujours été indigne. Et c'est ça qu'on veut montrer aussi avec l'hygiène, c'est vraiment de leur montrer qu'en fait... On a confiance dans qui ils sont et dans ce qu'ils valent, etc. Et c'est un peu leur rappeler aussi qui ils sont. Et que c'est pas parce qu'ils présentent comme ça qu'en fait ils sont comme ça.
Alors vous avez évoqué tout à l'heure le nombre de 200 personnes qui ont pu être logées ou relogées. Donc des belles histoires, vous en avez beaucoup. Voudriez-vous nous en partager une ?
Mais là, je pense que c'est une situation dont je parle régulièrement parce que ça monte. En avant l'hygiène et les ressources. Mais donc, il y a un monsieur comme ça qui vivait dans un parc, qui se plaisait bien dans ce parc, en fait. Il connaissait très, très bien la nature. Et quand on le voyait, il nous parlait de hérissons, de mésanges. Et donc, on se disait, bon, OK, un petit souci de santé mentale, mais c'est pas grave. Hein, il y avait quand même moyen d'avancer avec lui, de travailler avec lui. Jusqu'au jour où mes collègues ont été voir là où il habitait, enfin, où il vivait. Et donc, c'était dans un bunker, dans un parc, où il y avait un hérisson. Et des oiseaux et tout ça. Donc il avait une façon de raconter des choses qui étaient différentes, mais c'était quand même bien réel. Et là, en fait, dans ce parc, il se faisait régulièrement attaquer. Le bunker, les gardiens avaient peur qu'il s'écroule. Et puis en plus, il allait devoir partir. Donc à un moment donné, il se disait, ça ne va pas, il ne peut pas rester là. Et donc on a essayé de le motiver à aller dans une maison de repos, etc. Et il ne voulait pas trop. Et puis un jour, on a été manger avec lui dans une maison de repos qui n'était pas très loin, où il y avait un grand jardin Et voilà, il a mangé, il a adoré le repas là, mais il n'est pas resté tout de suite. Et puis en fait, après, il a demandé pour être le jardinier bénévole de la maison de repos. Et donc en fait, c'était... au début, il a fait ça, il était devenu jardinier bénévole. Et puis, mais il aidait le jardinier de la maison de repos. Hein. Il y en avait un autre qui était là aussi. Et puis maintenant, il n'est plus le jardinier là, mais il est donc dans la maison de repos. Et il peint énormément de fleurs, enfin, de trucs de la nature, etc. Du coup, ça a été vraiment d'utiliser ces ressources-là, ces connaissances-là qu'il a et qui lui ont permis de survivre en rue aussi. Et de voir comment est-ce qu'elles peuvent devenir des ressources en logement aussi, quoi.
C'est une belle histoire.
Oui, mais en fait, il y en a plein d'autres. En fait. Et ça, il ne faut pas hésiter à aller voir sur notre site internet. On met régulièrement des témoignages, parfois des belles histoires, parfois des histoires plus difficiles, mais vraiment des histoires de quotidien racontées par nos collègues du terrain, quoi.
À titre personnel, vous avez été honoré hein, par la Maison Royale. C'était important pour votre association.
Alors, j'ai d'abord cru que c'était une blague. Évidemment, c'est super valorisant et c'est important pour autant que ça permette des changements aussi. J'espère sincèrement que ça va permettre à certains de faire un pas en plus pour venir nous aider ou faire des dons, j'en sais rien. En tout cas, ce qui était super chouette, c'est une façon, enfin nous on interprète ça comme une façon qu'a eu le roi de valoriser notre travail et de dire, ben voilà, chacun sa part, et lui c'est une façon de valoriser. Et donc je trouvais, enfin, c'est super chouette, c'est super motivant, pour autant que ça permette vraiment un changement et de mobiliser d'autres personnes avec qui on n'a pas spécialement d'accès pour l'instant, quoi.
Et ça montre que le travail d'infirmier de rue ne passe pas inaperçu.
C'est ça. Et donc vraiment, ça c'est super chouette pour les collègues et moi aussi, quoi.
Infirmier de rue, aujourd'hui, c'est combien de personnes ?
Alors on est 60 plus ou moins, donc il y en a 10 à Liège et 50 à Bruxelles.
Sachant que vous avez commencé à deux.
Oui, on était deux mi-temps. Chaque membre de l'équipe a vraiment apporté sa part à l'édifice, quoi. Vraiment, il y a plein de choses qui ont évolué et chaque fois grâce aux expériences de l'une ou l'autre personne ou équipe au fur et à mesure, quoi, ou des interrogations qu'on a eues ensemble lors de différents partages. Et donc ça, c'est vraiment, si l'association est ce qu'elle est maintenant, c'est vraiment grâce à l'ensemble des membres de l'équipe.
Et vous avez une équipe pluridisciplinaire, hein.
Oui.
Tout le monde n'est pas infirmier l'association
oui,
infirmier
tout à fait.
De rue.
Oui, oui, vraiment. Donc ça, il y a vraiment plein de métiers différents et ça se diversifie de plus en plus, quoi. Donc il y a des assistants sociaux, des éducateurs. Donc au niveau du terrain, il y a, donc, comme je disais, plein de travailleurs sociaux différents. Et puis, on donne aussi des formations. On a des activités vraiment de plaidoyer maintenant aussi. Puis, il y a tous ceux qui s'occupent de la communication et de la sensibilisation, justement, pour Facebook, etc. aussi, enfin, le grand public. Et puis, il y a tout le support, hein, donc, tous ceux qui nous aident pour les finances, les ressources humaines, la gestion au quotidien, quoi.
L'activité de plaidoyer, on peut peut-être revenir ouais. Sur celle-ci. En quoi consiste-t-elle ?
Mais donc, on se rend compte que si on veut arriver à la fin du sans-abrisme, il ne faut pas qu'on travaille uniquement au niveau du suivi individuel des gens. Donc, on a notre équipe de terrain qui fait le suivi individuel, mais c'est important de pouvoir passer des messages aux politiques, au grand public et aussi même se renseigner sur ce qui existe ailleurs et voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer et diffuser au maximum des messages.
Alors justement, si vous deviez donner un message ce soir à nos auditeurs, quel serait-il ?
Que vraiment la fin du sans-abrisme est possible, mais qu'il faut y croire. Ça demande un certain engagement aussi politique sans lequel on n'y arrivera pas, évidemment. Et alors peut-être aussi de se dire que chaque fois que quelqu'un croise un sans-abri en rue, ben, d'essayer de transmettre cette énergie au fond de soi, de cette conviction de « cette personne-là ne sera peut-être pas là demain, parce qu'en fait demain, elle sera peut-être en logement », et de vraiment dire, d'avoir confiance dans la personne qui est là et dans la situation dans laquelle elle se trouve, quoi. Dans ce changement, quoi.
Autrement dit, rien n'est définitif.
Ah non, non, surtout pas, heureusement.
Donc, parole d'espérance.
Voilà.
Merci beaucoup, Émilie Messène. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine rencontre.
Merci
Bonsoir.
Beaucoup.